Ce soir à 19h, heure suisse, il y a un type qui va monter sur une scène à Washington, à un pupitre, pour annoncer ce qu'il a lui-même baptisé un D-Day économique. Un D-Day économique, la plus grande offensive financière jamais organisée dans l'histoire de l'humanité. Les mecs qui ont débarqué en Normandie en 44 pour éviter qu'on parle allemand comme première langue, eh ben ils doivent vraiment apprécier le parallèle. Et pendant que tout le monde regarde Washington, il y a un truc que personne n'a vu passer ce week-end. Un truc minuscule, une toute petite dépêche de rien du tout qui a été publiée durant le week-end sur Bloomberg. Et ce truc-là vous dit exactement où en est le marché et où on est la bulle, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Surtout pourquoi le 30 ans américain est à 5,27%. Alors on va commencer par le sirop d'érable, on va finir par des retraités japonais qui financent Sam Altman sans savoir. Et entre deux, je vais vous montrer trois personnes qui prétendent chacune tenir le volant de la même voiture. Et puis alors, spoiler alerte, aucune des trois ne regarde la route et ça pourrait bien se finir comme Verstappen ce week-end.
Oh, touch the white line. And it's over as quickly as that.
No, that's it. Oh, sorry.
Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le lundi 24 août 2026 et je suis Thomas Veillet.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Oui, je sais que l'école a recommencé la semaine dernière en Suisse, je sais pas pour le Canada ou la France ou la Belgique, mais une chose est sûre, c'est que la vraie rentrée macro, c'est dès ce matin et la semaine sera chaude. Parce que jusque-là, le mois d'août dans la finance, c'était le mois où on faisait semblant. Semblant de bosser, semblant de suivre les marchés, semblant que les volumes voulaient dire quelque chose. Pendant trois semaines, le marché a joué en mode short et tong. Indice à deux pas des records, VIX à 15, et la moitié de Wall Street dans les Hamptons a s'expliqué parmi que le deuxième semestre sera constructif. Et ben là, c'est fini. C'est fini, cette semaine, il y a trois enveloppes qui sont posées sur la table et c'est la rentrée pour de bon. La première enveloppe s'ouvrira ce soir, les sanctions contre l'Iran. La deuxième, mercredi soir, Nvidia qui publiera. Et la troisième, vendredi, le premier Jackson Hole du petit Kevin Warsh. Trois enveloppes, trois institutions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et exactement la même question posée aux trois. Est-ce que vous contrôlez encore quelque chose ? Mais avant ça, faut qu'on parle du Canada. Oui, parce que l'Amérique a réussi un truc que je ne pensais pas possible. Elle s'est fâchée avec le pays le plus gentil du monde. Vendredi soir, tard, les négociations commerciales entre Washington et Ottawa ont donc capoté. Les Canadiens ont quitté la table en expliquant que les Américains ont ajouté des demandes injustes au dernier moment. Évidemment, au dernier moment, c'est la signature de la maison. Samedi à minuit, une 50% de droits de douane sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens sont entrés en vigueur. Et là, quand je vous lis la liste, parce qu'il faut que je vous lise la liste, c'est de la poésie. Produits laitiers, spiritueux, contreplaqués, textiles, vêtements et crosses de hockey. Alors, je voudrais qu'on prenne juste 3 secondes tous ensemble pour la postérité. En août 2026, la première puissance économique mondiale, celle qui a envoyé des hommes sur la Lune, a taxé les crosses de hockey canadiennes à hauteur de 50%. Dans 200 ans, quand un historien voudrait expliquer à ses étudiants ce qu'était la civilisation occidentale à son crépuscule, il n'aura pas besoin de faire un cours. Il projettera simplement cette ligne-là au tableau et il se taira et tout le monde aura compris. Compris que les gens qui étaient au pouvoir n'avaient pas tous les tasses sur la même étagère. Mark Carney en face n'a pas fait dans la dentelle et je dois dire que pour un ancien banquier central, il a trouvé le bon ton, il a dit « On est en guerre quand on est attaqué et nous avons été attaqués ». On aurait dit du Macron contre le Covid. Mesure miroir, dollar pour dollar, 20 milliards de produits américains à partir du 8 septembre, acier, produits laitiers, papier, électronique, électroménager, machines agricoles. Réponse de Papy Trump sur son réseau social avec les majuscules et les points d'exclamation qu'on lui connaît. Le Canada veut les avantages d'être un État américain sans en être un. Donc voilà, on reparle de fusion, le 52e État. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le détroit d'Ormuz avant. On repasse donc au Canada. La semaine prochaine, on se refait le Groenland. Et à ce rythme-là, dans 6 mois, il va annoncer l'annexion du Valais pour récupérer le Fondon et la petite Arvin. Et puis, il y a eu le secrétaire au transport. Le secrétaire au transport, hein, c'est celui qui est censé s'occuper des ponts et des aéroports, qui est venu expliquer à la télévision que le Canada n'a pas d'armée, que son système de santé est défaillant, que ses taux d'euthanasie sont au plus haut et qu'aller en guerre commerciale contre Donald Trump serait stupide de leur part. On notera l'élégance de l'argumentaire. On est passé de la diplomatie à la cour de récréation. Bon, ça, on savait déjà. Alors maintenant, soyons factuels 3 minutes, parce que c'est aussi un tout petit peu mon job. Hein. Les biens visés par ces taxes, c'est environ 5% des exportations canadiennes vers les États-Unis. Économiquement, c'est une écharpe dans le pied, c'est pas non plus une amputation. Personne ne meurt de ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que chaque nouveau tarif, c'est un grain de sable de plus dans la machine à inflation. Et ça tombe précisément au moment où la Fed en a le moins besoin. On y reviendra dans 10 minutes et vous verrez que tout ça se recoupe et que tout devient élémentaire, mon cher Watson. D'ailleurs, Ottawa n'envisage même plus de reprendre les négociations avant les élections de mi-mandat. Traduction, le Canada se prépare à tenir un siège plusieurs mois. Ils ont sorti les conserves, le bois de chauffage et le caribou séché. Et c'est ça qui est nouveau. Avant, les partenaires commerciaux négociaient. Maintenant, ils attendent. Ils attendent une nouvelle élection. Ils attendent de voir si Trump va se faire dégager par le peuple pour pouvoir négocier avec des gens sensés. Enfin, pour autant que les démocrates soient des gens sensés. Rien n'est moins sûr parce que ça reste quand même des politiciens. Bon, maintenant, on va changer de guerre parce qu'on en a plusieurs en stock pour commencer cette semaine. Ce soir, à 19h, heure suisse, on va donc avoir le D-Day économique. On va nous annoncer la plus grande offensive financière jamais organisée dans l'histoire de l'humanité. Et la règle du jeu tient en une phrase, hein, celle qu'on nous resserre depuis 2001. Vous êtes avec nous ou contre nous. Tout pays qui continue à commercer avec l'Iran deviendra un paria mondial. Sauf que l'Iran est déjà l'un des pays les plus sanctionnés de la planète depuis 1979. Ça fait 47 ans qu'on empile les sanctions contre ce pays. Il reste plus grand chose à sanctionner. C'est un peu comme repeindre un mur qui a déjà 12 couches de peinture. À un moment, tu repeins plus le mur, tu repeins la peinture. Donc la question de ce soir, c'est pas de savoir comment on met la pression sur l'Iran. La vraie question, c'est à qui d'autre on s'attaque pour atteindre l'Iran en décalé. Et là, on parle de sanctionner les raffineries chinoises qui achètent du brut iranien, de sanctionner les grandes banques chinoises qui traitent les flux iraniens, d'imposer des droits de douane secondaires aux pays qui commercent avec Téhéran. En 2025, la Chine a acheté plus de 80% du pétrole iranien exporté par voie maritime. 80%. Le sujet de ce soir, c'est donc pas l'Iran, c'est Pékin. Et accessoirement, quelques banques indiennes, des raffineurs turcs et une poignée d'armateurs grecs qui vont passer un très sale quart d'heure et qui ne savent pas encore qui sont dans le film. Et puis alors en face, Téhéran n'est pas resté muet. Un dimanche, Mohsen Rezaei a déclaré que si la guerre économique continuait, pas une goutte de pétrole ne sera exportée, ni par Hormuz, ni de nulle part dans le golfe Persique. Et toute participation à cette campagne sera considérée comme un acte de guerre contre l'Iran. Par contre, alors, le meilleur, au milieu de tout ça, c'est le porte-parole des gardiens de la révolution. Il a sorti la phrase la plus vicieuse, mais en même temps fantastique du week-end, et je vais vous la lire lentement parce qu'elle est carrément chirurgicale. Il a dit: si vous aviez réussi sur le plan militaire, vous n'auriez pas besoin de tout ce vacarme économique. Il faut reconnaître que c'est méchant, c'est de la propagande, c'est écrit par un régime qui pend des gens à des grues, mais c'est pas complètement faux. Mais alors pas du tout. Bon, et le marché alors, tout ça, en ce lundi matin? Bah le Brent est à 91,36, il a clôturé vendredi autour des 94, après une semaine à plus 6,6%. Et il recule encore plus ou moins de 2% ce matin, parce que le marché a décidé, sans avoir lu une seule ligne du texte, qui n'existe pas encore, que les sanctions de ce soir seraient supportables. C'est magnifique, on note la vie avant de connaître la copie. Mais le chiffre qui compte n'est pas le Brent. Le Brent, vous le vivez pas en vrai. Le chiffre qui compte, c'est l'essence sans plomb américaine. 4,10$ le gallon. Il y a un an, c'était 3,15. On est à plus 30%. Et ça, c'est 10 semaines avant les élections de mi-mandat. Alors, je sais pas si vous voulez connaître la contradiction du jour, la vraie, celle qui rend tout ce lundi complètement schizophrène. Moi, je vous la dis quand même. La même administration qui supplie le marché obligataire de faire baisser les taux longs s'apprête ce soir à foutre le feu au principal robinet de pétrole de la planète. Ce qui va pousser l'inflation plus haut et ce qui va pousser les taux longs encore plus haut. On peut pas vouloir un baril à 60$ et une guerre économique totale avec l'Iran. Il faut choisir. Et visiblement, l'équipe de bras cassés de la Maison Blanche, ils ont choisi pour nous. Sur les taux ce week-end, il ne s'est rien passé. Que dalle, zéro. Le 10 ans américain est à 4,71 ce matin. 2 points de base sous les niveaux de vendredi. Le 30 ans reste scotché à 5,27. Toujours à un cheveu de son plus haut depuis 19 ans. Vous l'avez entendu, celle-là. Et normalement, à ce stade, je vous dis rien à signaler et on passe à la suite. Sauf que non. Sauf que non, parce que cette absence d'information, c'est l'information. Souvenez-vous, mercredi dernier, le Trésor annonce qu'il double ses rachats de dettes longues à partir du 9 septembre. C'est une intervention. C'est le Trésor qui monte sur le ring pour plafonner les taux longs. Le marché a applaudi une séance. Une séance. Et puis il a tout effacé. Comme si ça avait jamais existé. Comme si le communiqué de Bessent avait été envoyé sur Snapchat et qu'il s'était autodétruit en 24 heures. Une semaine plus tard, on est revenu exactement au point de départ. C'est pas un détail technique, hein. C'est le trésor américain qui essaye de tenir le volant et qui tourne le volant, sauf qu'il se passe rien et que la voiture continue tout droit.
Oh, touch the white line, and it's over as quickly as that.
No, that's it. Oh, sorry.
Les commentaires de week-end valent le détour. On a entendu qu'un stratège qualifiait la stratégie budgétaire américaine de rouge à lèvres sur un cochon. Un autre résumait le truc de la façon la plus honnête que j'ai lue depuis 6 mois. Il disait que si vous voulez vraiment faire baisser les taux longs, toutes les routes passent par quelque chose dont l'administration Trump ne veut pas. Soit un déficit plus petit, soit une baisse des actions, soit moins d'investissement dans l'intelligence artificielle. Choisissez votre poison, il n'y a que 3 portes. Hein. Et derrière chacune de ces portes, il y a quelqu'un à la Maison Blanche qui hurle « Non, pas celle-là, pas celle-là !» Mais le meilleur commentaire de la semaine, il vient d'un gérant obligataire américain à qui on demandait si les obligations restaient une classe d'actifs sans risque. Sa réponse est la suivante. « Quand les gens me disent que les obligations sont peu risquées, ça me donne juste envie de pleurer. » Et il a ajouté un truc qu'il faut se coller sur la porte du frigo avec un aimant. On n'a jamais remboursé une dette de cette taille-là autrement qu'en jouant sur l'inflation. Jamais dans toute l'histoire. Bon, en même temps, des dettes de 40 000 milliards dans toute l'histoire, il n'y en a pas eu 150. Donc si vous détenez du 30 ans à 5,27, c'est parfait. C'est parfait, vous serez remboursé. Vous serez remboursé, c'est sûr, dans 30 ans. C'est promis. Et c'est même garanti par le Trésor américain. La seule petite inconnue, c'est ce que vaudront ces dollars-là en 2056. Alors maintenant, la nouvelle du week-end, celle dont je vous parlais au tout début de cette émission, c'est samedi. Nvidia a prévenu ses plus gros clients, pendant le week-end, que les serveurs équipés de ces puces vont augmenter de plus de 15% dans de nombreux cas. Ça concerne le Vera Rubin et le Grace Blackwell, les deux vaisseaux amiraux de Nvidia, et ça commence sur les livraisons de début 2027. Motif invoqué, je vous le donne en mille, le coût de la mémoire. Eh oui, encore elle, encore la mémoire. Nvidia, c'est 75% de marge brute, c'est l'entreprise la plus puissante du secteur, le plus puissant du monde. Celle qui vend des puces à des dizaines de milliers de dollars pièce parce que la demande dépasse structurellement l'offre. Celle qui, sur le papier, peut absolument tout absorber. Cette entreprise-là n'est pas capable d'absorber la hausse du prix de la mémoire. Elle la répercute donc sur Microsoft, sur Google, sur Oracle, sur Amazon et à la fin de la chaîne, sur vous, dans votre abonnement, dans votre logiciel, dans votre facture mensuelle. Ça veut dire une chose très simple. Le pouvoir est en train de changer de main. Les 3 fabricants d'IRAM, Samsung, SK Hynix, Micron, sont devenus le vrai goulot d'étranglement de l'intelligence artificielle. Ils ont augmenté leur production et ils sont toujours en retard. Apple et Qualcomm ont déjà annoncé qu'ils devaient monter leur prix à cause de la pénurie. Tout le monde est en train d'y passer. Et puis alors, maintenant vraiment l'info qu'il faut absolument retenir de tout ça, parce qu'on va en reparler ces prochains temps, bah sûrement, si vous retirez les plus-values comptables d'Alphabet et d'Amazon sur leur participation, donc si vous regardez la vraie croissance des vrais bénéfices, le premier contributeur à la croissance des bénéfices du S&P 500 ce trimestre, c'est pas Nvidia, c'est Micron. Micron, la boîte qu'on rangeait il y a encore 3 ans dans la catégorie cyclique, celle qu'on achetait bas, qu'on vendait haut et qu'on filait aux stagiaires quand on partait en vacances, celle dont on se moquait dans les salles de marché. Aujourd'hui, elle passe devant Nvidia. C'est exactement ce qui se passe quand on découvre que dans une ruée vers l'or, le type qui gagne vraiment de l'argent, c'est pas celui qui creuse, c'est celui qui a le dernier stock de pelles du canton et qui a compris qu'il pouvait les vendre au prix qu'il voulait. Du coup, mercredi soir, Nvidia publie dans un décor un tout petit peu différent. On attend 92 milliards de chiffre d'affaires, à peu près le double de l'an dernier, et 2,08 $ de bénéfices par action. Mais le chiffre qui compte, qui comptera, c'est jamais celui-là, c'est celui d'après, c'est la guidance. C'est Wall Street qui veut du 103 milliards, au moins, de guidance. S'il annonce 106, la Fed continue jusqu'à Noël. S'il se contente de confirmer, le marché va faire la gueule malgré des résultats stratosphériques. Parce qu'être excellent ne suffit plus, vous le savez, depuis longtemps. Il faut être meilleur que les espoirs les plus fous des gens qui n'osent même plus les écrire. Et pour la première fois, Jensen Huang va devoir monter sur scène et expliquer pourquoi ces machines coûtent 15% plus cher l'année prochaine, en détail, devant des clients qui écoutent. Mercredi matin, je vous ferai une vidéo spéciale Nvidia qui vous dira ce que vous devez attendre et vraiment regarder. Et puis mercredi soir, après la publication des chiffres, je sortirai le Morning Bull Live dans la nuit pour que vous ayez un débrief avant l'ouverture de Tokyo jeudi matin. Ah oui, puis au passage, hein, parce qu'on n'est pas à ça près, la boîte de Jensen Huang sera en discussion pour filer 30 milliards à Perplexity sous forme de participation. Et c'est là qu'on arrive au sujet que je voulais vraiment aborder. Alibaba m'a tendu la main. Cette nuit à Hong Kong, Alibaba se prend une tôle de près de 10% après avoir levé 10,2 milliards de dollars en nouvelles actions. La plus grosse opération de ce type jamais réalisée sur place, avec une décote de 8,4% par rapport au prix clôture. Objectif ? Évidemment, financer l'intelligence artificielle. Petit rappel pour la bonne bouche, le trimestre dernier, le bénéfice net d'Alibaba a chuté de 75% à cause des dépenses en IA. Et le groupe a déjà cramé la moitié de son plan d'investissement sur 3 ans. Toujours pendant la nuit, SoftBank annonce une émission obligataire destinée aux particuliers japonais. 1000 milliards de yens, 6,3 milliards de dollars, la plus grosse émission jamais réalisée par un émetteur japonais, 7 ans, coupon entre 4,3 et 4,9%. Objectif, évidemment, financer ses engagements auprès d'OpenAI, donc de l'intelligence artificielle. Plus de 60 milliards qui doivent à OpenAI à ce jour. Alors, on va traduire ça du japonais au français. Ça veut dire que des retraités japonais vont prêter leur épargne à Masayoshi Son pour qu'il la donne à Sam Altman, à 4,5% par année, à la louche, sur 7 ans. Bon courage à tout le monde, hein, parce que vu le risque, c'est pas très cher payé. Enfin, pas cher payé pour Sam Altman. Et puis alors, vous ajoutez à ça Alphabet, qui vient d'émettre des obligations jusqu'à 40 ans de maturité. Vous ajoutez Nvidia, qui monte ses prix de 15%. Vous ajoutez encore Samsung, qui dévisse de plus de 6% ce matin à Séoul, parce que un plan de retour de cash de 80 milliards de dollars n'a pas suffi à impressionner le marché. Je continue ? Non, je crois que c'est bon, là, je crois que c'est bon. Voilà donc ce que personne n'a envie d'entendre un lundi matin, mais qui est en train de devenir notre réalité. Pendant 3 ans, l'IA a été financée par du cash flow. Des entreprises hyper rentables qui prenaient l'argent, qui rentraient et le remettaient dans les data centers. C'était sain, c'était même impressionnant au vu des montants. Aujourd'hui, l'IA se finance par la dette, ou alors par la dilution des actionnaires. Obligations à 40 ans. Emprunt auprès des ménages japonais. Placement d'actions avec décote. Prêt sur nantissement de participation. Et une chose financée par de la dette n'obéit plus du tout aux mêmes règles qu'une chose financée par du cash. Vous voulez savoir pourquoi le 30 ans américain est à 5,27? Bah c'est pas seulement le déficit fédéral, c'est parce que 3 emprunteurs se disputent le même stock d'épargne mondial, les États, la guerre, indirectement, et les data centers. Pour la première fois depuis longtemps, les data centers jouent des coudes pour se rapprocher du gars qui distribue le cash. Maintenant, vite fait, le reste parce qu'il y a 2 ou 3 trucs trop beaux pour être coupés. Shine a lancé son IPO à Hong Kong. Elle cherche jusqu'à 1,77 milliard sur une valorisation d'environ 27 milliards. Alors, petit rappel, hein, la boîte valait 98 milliards en 2022, 64 milliards en 2023. On est donc à moins 72% en 4 ans. Pour l'entreprise qui a réinventé l'achat impulsif et qui ne vend, soyons honnêtes, que de la merde, eh bien, ça fait quand même un tout petit peu bizarre. Pas super rassurant. Prix fixé le 31 août, cotation le 1er septembre, vous avez une semaine pour faire semblant d'hésiter. Et puis Tesla se prend un rappel de 4,3 millions de véhicules en Chine aux côtés de 8 autres constructeurs locaux. Le plus gros rappel de l'histoire du pays. Le motif ? Les poignées de portes de secours sont difficiles à identifier et à actionner car leur couleur est similaire à celle de la garniture intérieure. Et la solution retenue par Tesla, c'est coller une étiquette d'avertissement. Une étiquette ! Donc sur un problème de sortie de secours dans une voiture à 60 000 balles. Ça me fait penser un peu à cette phrase que j'adore quand même. Dans les années 60, le mode d'emploi de la Ford Mustang expliquait comment faire la vidange. Et en 2026, le mode d'emploi de la même Ford Mustang explique, en gras, qu'il ne faut pas boire le liquide de la batterie. Visiblement, les cons se sont multipliés à une vitesse folle. Et encore, on n'a pas encore vu arriver la génération qui s'instruit exclusivement sur TikTok. Pour le reste, l'or frise les 4 700 $ l'once après 5 semaines consécutives de hausse. Le Bitcoin campe au-dessus des 77 000 après avoir pris plus de 20% en 5 jours. Et le dollar continue de fondre tout doucement, tranquillement. Selon le manuel du parfait investisseur version 82, c'est absolument pas comme ça que ça devrait se passer. Sauf que le manuel n'a pas encore intégré que certaines personnes ne veulent plus du tout, ou alors tout simplement ne plus être payées en dollars. Même à 5,27. Et ce matin, l'Asie n'est pas à la fête. Hong Kong perd 2,14%. La Corée recule de près de 3,3%. Le Japon recule de 0,5%. Et les futurs américains sont plats. Personne ne veut prendre de moindres risques avant 19h. Le programme de la semaine vite fait. Mardi, confiance du consommateur. Mercredi, grosse journée, le PCE de juillet. La révision du PIB du deuxième trimestre à 3,1%. Et Nvidia après la cloche, accompagnée de Salesforce, CrowdStrike et HP. Jeudi, Marvel Workday, la grande distribution. Et vendredi, Warsh à Jackson Hole à 16h, heure suisse. Une dernière chose avant de vous lâcher, et elle mérite juste 2 minutes. Vendredi, on aura aussi le sentiment du consommateur version Michigan, un chiffre que je trouve nul, qui ne veut pas dire grand-chose, mais regardez quand même, l'estimation d'août est tombée à 51 contre 55,2 en juillet. Pendant ce temps, le PMI composite est monté à 56 au plus haut depuis avril 2022, et la Fed d'Atlanta tape sur 4% de croissance au troisième trimestre. Donc vous avez dans le même pays, au même moment, une économie qui accélère et des gens qui vivent de plus en plus mal. Et c'est pas une contradiction statistique, c'est une définition. Ça s'appelle une économie qui va très bien pour ceux qui détiennent des actifs et très mal pour ceux qui font le plein. Cette semaine, on va commenter des humeurs, on va lire 3 documents, des sanctions, une guidance et un discours, 3 textes. écrit par trois personnes qui prétendent tous tenir le volant. Et vendredi soir, on saura enfin lequel des trois conduit vraiment. Et honnêtement, je ne suis pas certain que la réponse soit l'un des trois. Si ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre. D'ici là, un conseil qui ne coûte rien et qui vaut probablement plus que toute cette vidéo, faites-le plein aujourd'hui et pas demain. Passez une excellente journée, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez et commentez. Et on se retrouve demain à la même heure pour débriefer le D-Day économique et compter les morts et les crosses de hockey qui restent au bord de la route. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.